When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui dans le Rendez-vous Tech, la vraie révolution dans les smartphones, c'est chez Google, le hack des données les plus personnelles au monde et la mission accomplie d'Elon Musk qui a détruit la vérité. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech numéro 534. Nous sommes en octobre 2023, je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier très chaleureusement les patriotes qui ont rejoint le Patreon, Benjamin Nardini, Vulcan, le Vulcan de la caméra peut-être, Jonathan Lemen, Lily Doudida, Jonathan Ling et les producteurs de cet épisode, Lancelot Davizard et Rémi X. Merci à vous tous de soutenir financièrement cette émission. Sans vous, elle n'existerait pas. Merci également à Cédric d'être là avec nous. Bonjour Cédric, comment vas-tu ?
Salut Patrick, ça va fort bien. Je le vois un peu plus grave que d'habitude.
Qu'est-ce
encore.
Qui se passe ? Cédric,
non, rien,
tu ne m'as pas dit comme dans un rêve, quelque chose cloche. C'est le signal, signal secret. Quand on te demande comment ça va et tu dis pas comme dans un rêve, c'est genre ça veut dire à l'aide.
C'est l'inverse du bas signal, ça, c'est tout va mal. Restez chez vous. Non, j'ai la crève, j'ai mal à la gorge. Enfin, c'est pas grave, c'est des trucs qui normalement ça passe bien au micro.
Bon, crève, mal à la gorge, voix suave et sexy.
Voilà.
Mais tu es là quand même, merci, merci Cédric. On est également avec Pauline Ferrari qui nous rejoint pour la deuxième fois. Salut Pauline, comment vas-tu ?
Salut, ça va très bien, il fait beau, je suis posée, tout va bien. On va parler
voir
de trucs cool, donc ça va.
Super, voir à Dieu.
Oui, encore
Pauline
un peu la crève.
Ah, quand même.
Encore un petit peu de la semaine dernière, sinon c'est pas drôle.
Bon, écoutez, me faites pas, je suis le seul à... Je me suis réveillé avec un léger mal de tête. Je panique. Je prends l'avion dans une semaine.
Après, tu vas avoir une légère raideur dans le cou.
Arrête, Cédric, cesse.
Et après, c'est le début de la fin.
Immédiatement. Donc aujourd'hui, on va vous parler de sujets passionnants. En after show pour les patriotes, d'ailleurs, je risque de vous faire un petit topo sur la musique sur TikTok et comment on fait de la musique aujourd'hui, comment les professionnels jeunes s'y mettent. Parce que figurez-vous que j'explore un petit peu TikTok. Je vois si je peux l'utiliser pour faire des news. Si vous voulez me suivre, c'est NotNotPatrick. NotPatrick était déjà pris sur TikTok, mais il y a NotNotPatrick. C'est vraiment exploratoire à ce stade. Hein. Je fais des petits tests. Mais donc, je reconsomme un petit peu plus de TikTok et il y a des choses très intéressantes à dire sur comment se passe la musique là-bas. Donc, j'en parlerai peut-être en after show après l'émission exclusivement pour les Patriotes. C'est la petite partie qui leur est réservée. Et d'ailleurs, ils ont aussi eu un édito, en parlant de création, un édito sur les changements sur Patreon ce week-end. J'en ai parlé un petit peu et surtout la manière dont l'industrie de la création évolue. C'est très, très intéressant. Enfin, pour ceux que ça intéresse, moi, j'en fais partie. Et la dernière chose que j'aimerais vous rappeler avant de lancer l'émission en propre, c'est que notre IRL, notre rencontre en vrai où on va pouvoir se toucher, enfin pas trop, hein, mais je veux dire, on va pouvoir se voir en vrai sans caméra interposée, c'est toujours le 21 octobre, dans une dizaine de jours à peine, à 16h, au bar Le Corcoran du Sacré-Cœur. C'est confirmé, j'ai réservé, ils ont dit « Ok, venez, il n'y a pas de problème ». Donc, n'oubliez pas, je vous dis de réserver la date depuis un moment, c'est le 21 à 16h, venez et venez nombreux. Cédric, tu pensais peut-être venir ? Je ne sais pas si tu seras revenu.
Je pense toujours venir.
Très bien. Bon, bah, on verra.
Ah,
on
c'est verra samedi.
C'est compliqué.
Ça. Premier jour des vacances de Toussaint.
D'accord. Bon.
Faut que je réfléchisse. C'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est de venir, mais j'ai des impératifs.
Viens avec tes
enfants qui ont besoin.
Je ne sais pas si ça les passionnera. Bon, écoutez. Non. On va se lancer dans le premier sujet de l'émission. Le premier sujet, c'est un sujet fort intéressant, je trouve, puisque nous allons parler de la vraie première révolution dans le mobile depuis bien longtemps. Et oui, je ne vais pas mâcher mes mots. C'est peut-être un titre que vous pensez un petit peu accrocheur, trop accrocheur, buzzy, putaclic même, mais non, c'est vrai. Potentiellement. on va en parler dans un instant. Google a fait sa présentation de rentrée comme tous les ans, quasiment. Ils présentent leur nouveau matériel. Ils ont présenté le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Ils ont également présenté la Pixel Watch 2 et les Buds Pro. Alors, tous ces appareils sont vraiment, ont des nouveautés intéressantes. La montre commence à devenir une montre dont on comprend le but, l'objectif, enfin, qui est une vraie montre. Les Buds Pro, ils ont des fonctionnalités intéressantes également, des trucs de suppression de bruit de fond, etc., etc. Donc, tout a l'air intéressant dans cette présentation, mais c'est quand même du relativement classique, on va dire, pour 80%. Donc, je vais vous parler spécifiquement de ce que je retiens de cette présentation. Si vous voulez la voir en résumé de 15 minutes, le lien sera dans la newsletter, comme toujours. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous voulez les détails. Mais ce que je retiens, c'est surtout sur le téléphone. D'une part, il y a une vraie implémentation de l'IA générative et surtout conversationnelle avec l'intégration de l'assistant, l'intégration de Bard, donc leur équivalent de ChatGPT, dans l'assistant qui est inclus au téléphone, et ça permet énormément de choses. L'IA est développée au-delà de cet assistant à qui on peut parler dans un langage naturel et qui nous répond avec un langage naturel, genre on lui demande est-ce que tu peux faire une recette de tarte à la rhubarbe avec de la farine sans gluten et tel ingrédient, et il va vous comprendre et sortir le truc, comme ChatGPT, donc avec plus ou moins de succès, mais en tout cas plus de succès que les assistants classiques. Il y a aussi d'autres choses dans l'IA. Hein. On peut changer les images, enlever le couillon qui est dans le fond de la photo qu'on ne veut pas, arranger. Genre, si on a une photo avec Pauline, moi et Cédric et qu'on en prend trois et que dans chacune, il y a une personne qui sourit et les deux autres qui font la gueule, et ben on peut arranger. C'est une fonctionnalité qui existait déjà ailleurs, mais qui est là réimplémentée très bien. On peut arranger une photo finale où tout le monde sourit ou où tout le monde fait la gueule, selon le choix. ce genre de choses, il y a un truc qui est très cool. Il y a la fonctionnalité Zoom Enhance. Vous savez, c'est la fonctionnalité où on peut zoomer dans une photo qui est toute pixelisée. Et du coup, quand on lui dit Enhance, eh ben, il peut effectivement améliorer. Vous savez, comme dans les films, genre Zoom Enhance, et ça remet la bonne qualité du truc. Eh ben, ça fonctionne pour de vrai. Donc ça, c'est cool. Wow. Tout ça, c'est l'IA. C'est sympa, c'était attendu. Il y a un truc un petit peu inattendu, c'est le capteur de température, enfin un thermomètre infrarouge, qui est cool, genre la petite est malade, pas besoin d'aller chercher un thermomètre. Je ne sais pas si ça marche pour la température du corps, mais normalement...
Est-ce que tu mets le téléphone sur le front de quelqu'un et ça prend la température?
Non, c'est comme les tempêtes. Ça serait sympa, genre claque sur la tempête.
Tu le mets vraiment sur ta tête?
Non, c'est comme les thermomètres infrarouges. Tu sais, tu pointes, okay. T'appuies et ça, ça marche comme et ça.
C'est sans contact.
Sans contact.
Okay, qui fait dans la pièce ou quoi, t'as la température.
C'est ça. Et c'est pas que pour les personnes, hein, ça marche aussi pour regarder la température de quoi que ce soit. J'imagine qu'il y a une range, comment on dit? Bon, bref, température plus basse, plus basse à plus haute qu'il tient. Une plage de température, merci. Et donc, vous pouvez... est-ce que ma viande est bien à la bonne température qu'il faut pendant la cuisson? Bah, vous pouvez coller le téléphone dans le four à 180 degrés, vous pouvez.
C'est bonne idée, ça.
Une fois.
C'est une bonne idée.
Ouais, c'est une fois, tu vois, ça sert une fois.
Ça marche une fois, ouais.
Mais la vraie... la vraie révolution, et c'est pour ça que j'ai mon titre qui est pour le coup pas du tout usurpé, c'est qu'ils ont annoncé en fin de conférence qu'ils allaient implémenter, enfin qu'ils promettaient qu'ils avaient un support de 7 ans pour l'OS de ces appareils, spécifiquement les Pixel 8 et 8 Pro, donc les téléphones et cette génération-ci, ils ne parlent que de ces appareils, mais 7 ans de mise à jour, de maintien. Alors, les mises à jour de sécurité de l'OS, bien sûr, mais ils disent aussi on ajoutera des petites fonctionnalités ici et là. Bon, on imagine qu'au bout de 7 ans, les processeurs seront un petit peu trop âgés pour avoir toutes les dernières fonctionnalités. Il y en aura quelques-unes au moins. Mais surtout, on parle dans cette émission depuis des mois maintenant, voire plus longtemps, du fait que les mises à jour d'OS étant limitées dans le temps, surtout dans le monde d'Android, eh ben, ça limite l'utilisabilité des appareils. Et parfois, ben, au bout de 3 ans, 4 ans, il est vraiment déconseillé d'utiliser un appareil qui n'a pas de mise à jour de sécurité parce qu'on a des usages à risque. Du coup, on peut se faire hacker, etc. Généralement, le meilleur élève de cette industrie, c'est plutôt Apple qui, dans la pratique, alors ils annoncent pas, ils promettent pas, mais dans la pratique, ils vont 5, 6, parfois ben, autour de 5, 6 ans, on va dire. Moi, j'ai un iPad qui a 7 ans et qui est encore mis à jour. Mais là, Google qui promet vraiment 7 ans, c'est, à mon sens, une promesse qui est révolutionnaire pour l'industrie. C'est le plus gros changement, la plus grosse nouveauté. La plupart des téléphones Android, ils ont des mises à jour promises pendant 3 ans. Et c'est de plus en plus
scandaleux. Avec souvent des mises à jour de sécurité plus longtemps que ça, mais un vrai support de l'OS.
Les appareils bon marché, surtout, c'est pas plus de mise à jour de sécurité très vite. Quoi. Mais oui.
À peine sorti, déjà oublié. Ouais, c'est...
Mais du coup, pour moi, c'est une annonce. Alors, c'est peut-être un premier pas vers un changement. Évidemment, c'est un argument marketing aussi pour eux, hein, mais. Si c'est un premier pas vers un changement généralisé dans l'industrie qui tendrait vers... parce que généralement, on disait maintenant, ah, Samsung fait 3 ans, bravo, bravo Samsung, c'est super, vous êtes des bons élèves. Bah là, le standard, il a été mis à 7 ans. Bon, en tout cas, le haut du standard. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc hyper important.
Non, ça l'est. Maintenant, est-ce que les gens vont vraiment garder leur smartphone de 7 ans? C'est une autre question, mais c'est pas ça la question, en fait. C'est que... On a un marché de l'occasion qui est finalement un peu sclérosé, c'est-à-dire qu'il y a la part des smartphones qui se vendent d'occasion, elle est, je sais pas combien c'est d'ailleurs, est-ce que c'est 30%, est-ce que c'est, mais il y en a pas assez. Pourquoi il y en a pas assez? C'est parce que les téléphones durent pas aussi longtemps qu'on pourrait le vouloir. Maintenant, avec l'augmentation des prix, moi maintenant j'ai pris la résolution de pas changer de téléphone en moins de 3 ans. Allez, voilà. 7 ans, c'est difficile à tenir.
Bah, disons qu'au minimum, il y a des gens qui gardent leur téléphone plus longtemps. Au minimum, c'est la possibilité de continuer à l'utiliser. Parce qu'encore une fois, c'est un truc dont on ne se rendait pas forcément autant compte quand on changeait de téléphone tous les ans. Mais un téléphone dont l'OS n'est plus mis à jour, au moins pour les mises à jour de sécurité, c'est un téléphone qu'il est réellement déconseillé d'utiliser pour tout le monde. Ouais. Donc, à partir du moment où le téléphone n'est plus mis à jour... Eh ben, il devrait, enfin, en théorie, il sort du marché. Donc, quand ça dure 3 ans, c'est complètement, enfin, c'est hallucinant. Et encore une fois, ça nous choquait pas il y a quelques années à peine. En tout cas, moi, ça me choquait pas. Aujourd'hui, avec une prise de conscience plus importante, bah, c'est complètement, c'est éberluant, je dirais. Je suis choqué et outré. Éberlué. Choqué et outré, c'est le terme officiel. Je suis choutré. Je suis choutré. Mais. Il y a un truc, on met presque les doigts dans le nez en prenant le contre-pied de cette bonne nouvelle, c'est que ceux qui font la promesse, bah c'est Google. Et il faut bien avouer que s'il y a des spécialistes qui vont venir sur leurs promesses et sur leur lancement de produits, bah c'est bien Google, évidemment, vous connaissez tous le site, c'était quoi, Killed by Google, c'est... un truc de genre. Et... Oui. Il y a quelques mois à peine, je t'aurais dit, oui, mais là, c'est une promesse d'une fonctionnalité marketing, machin. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a eu deux énormes retours en arrière de Google. D'une part, Stadia, qui était leur service de streaming de jeux vidéo, qui était un produit à part entière, mais qui était quand même un énorme investissement et une énorme promesse qu'ils ont complètement désintégré à peine 2 ans après le lancement. Donc ça, c'était inattendu et surprenant, vraiment, qu'ils se soient autant engagés sur un truc aussi gros et qu'ils disent « Non, c'est bon, allez, basta, au revoir. » Et l'autre chose, c'est... Comment il s'appelle ce système d'abonnement Google One ou un truc du genre, où on paye par mois, qui était lancé aux États-Unis, on paye par mois, on a le téléphone, l'abonnement Google One et c'est Google Pixel Pass, je crois, ou un truc du genre. Mm-hmm. Et on a l'abonnement à tous les services Google, etc., et tous les 2 ans, on récupère un nouveau téléphone. Sauf qu'au bout de 22 mois, 2 ans, c'est 24. Hein, donc, au bout de 22 mois, avant le premier changement, eh ben, ils ont plié bagage et ils l'ont annulé. Alors, on peut le comprendre, parce que annoncer, enfin changer les téléphones de tout le monde 2 ans après, en même temps que tu annonces 7 ans de support pour le téléphone d'avant.
Ah oui.
C'est un peu contradictoire en termes de marketing.
Peut-être que ça joue. Mais il n'empêche, de toutes les sociétés tech du monde, celle à laquelle je ferai le moins confiance pour tenir son engagement sur ce point, ça serait Google. Ça ne veut pas dire que là, je pense que c'est... Ouais, vas-y Cédric, dis-moi, je pense
non,
comme
mais
toi.
Parce mais... que ça, la différence, c'est qu'en fait, eux, pendant longtemps, ils ont lancé un nombre de trucs absolument incommensurables, mais en assumant le fait que voilà, tu fais cuire tes pâtes, t'en prends une, tu la jettes. Au mieux, puis si elle tient pas, bah tu refais. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je suis pas choqué par l'arrêt de Stadia. C'est très embêtant parce que moi, j'aimais bien Stadia. Mais qui lance des trucs, ça marche pas, ils arrêtent pas. Là, c'est pas pareil parce que c'est pas un produit. Tu veux, c'est pas un truc où on va dire ah ben non, ça marche pas. Non, c'est un engagement de leur part. Et ça va être très difficile à tenir parce que c'est un engagement qu'ils prennent au moment où tu achètes ton smartphone et où tu dis voilà, bah j'achète ce smartphone.
Oula.
Parce que supporté par des mises à jour pendant 7 ans. Surtout, ça doit être un truc qui doit aller dans leur rapport ESG, dans leur rapport RSE, enfin un truc remis. Enfin, là tu rentres dans du, tu vois, tu rentres dans de l'auto-contrainte forte. C'est pas juste, on va lancer un truc, on va voir si ça marche pas, on arrête. Ok, ça, ils peuvent le faire, tu vois, deux fois par jour et 3 fois le dimanche. Mais là, non, c'est un engagement qu'ils prennent sur la durée. Ça va être très, très difficile de revenir dessus. Mais bon, comme dirait Patrick, on s'était dit rendez-vous dans 7 ans, quoi. Voilà.
Je suis d'accord avec toi sur le principe, et c'est ce que j'expliquais sur Twitter et ailleurs ces derniers jours. J'espère simplement qu'on ne se retrouvera pas dans 2-3 ans pour dire « Ah, ok, parce que tu vois, Google interrompt le truc et faire un settlement du class action lawsuit où ils vont payer 24,50 € à chaque personne qui a acheté un Google pour cette raison, un Pixel pour cette raison, ça ne serait pas impossible pour eux non plus. » Mais voilà, je me fais un petit peu l'avocat du diable pour mentionner cette chose.
Laissons-leur le bénéfice du doute. Voilà.
En tout cas, je trouve que c'est une promesse intéressante, que... dans un argument marketing aussi très... sur, je pense, la prise de conscience écologique globale du monde dans lequel on vit. Mais je trouve ça intéressant, comme tu le disais, Patrick, si dans toute l'industrie des téléphones portables, et je pense notamment à Apple... est très connu pour avoir des téléphones qui durent pas forcément des fois très longtemps, ça dépend, mais tout ce qui est la question de l'obsolescence programmée, en vrai c'est hyper intéressant parce que si tout le monde commence à s'aligner un peu sur ce truc d'allonger la durée de vie des smartphones, et peut-être que ça va créer aussi un mouvement d'aller de plus en plus vers le reconditionner, de plus en plus vers tout ça. Et en tout cas, je trouve ça intéressant que ce soit vraiment sur les mises à jour de sécurité, quoi. Et d'avoir donné la priorité à la sécurité et pas juste sur, je sais pas, des fonctionnalités un peu gadget, vraiment de dire, en fait, le téléphone va tenir et les données vont tenir avec, quoi.
Exactement.
C'est intéressant.
On est d'accord. Bon, deuxième sujet, j'aimerais vous demander, à tous les deux, à votre avis, quelles sont vos données les plus personnels que vous puissiez posséder dans toute votre vie, dans toute votre existence.
Aïe, aïe, aïe.
C'est compliqué parce qu'il faut... Il y a deux
posséder,
façons de l'aborder.
Posséder, c'est peut-être pas le bon mot.
Quelles sont tes données les plus personnelles? Soit c'est par typologie, de dire, je sais pas, c'est mes photos, c'est mes documents, c'est machin, soit c'est par provenance. C'est les trucs que j'ai sur Dropbox, c'est les trucs que j'ai chez Google, c'est mes trucs sur Facebook et ailleurs. Moi, si demain mon compte Google disparaît, je vais pleurer des larmes de sang, tu vois ce que je veux dire? Parce que
Cédric,
j'ai 20 ans de mails, de documents partagés, j'en doute.
Il y a pire, les données que tu voudrais, j'essaye de naviguer dans la manière dont je formule la chose. Les choses qui sont les plus personnelles, pas forcément les choses auxquelles tu tiens le plus, ça peut... Alors, j'explique. On va parler du hack de 23andMe.
C'est génial cette histoire, c'est incroyable.
Les personnels qui existent, c'est votre ADN, vos informations génétiques. Tu vois là où j'essaie d'arriver. 23andMe, c'est quoi? C'est une société qui, depuis plusieurs années, vous propose d'étudier, de décoder votre ADN. Vous allez sur le site, vous commandez un kit d'ADN, il vous envoie un petit kit avec, vous savez, le petit truc qu'on passe dans la bouche, on met de la salive, on le met dans le tube, non,
faut,
on renvoie
chez cracher
eux.
Dedans, faut cracher dedans beaucoup. C'est la première assurance. Non, mais si, beaucoup, et c'est important, c'est une question de sécurité, d'ailleurs, ça assure que tu ne vas pas faire le tester de l'ADN d'un autre. C'est-à-dire que tu peux pas dire, tu peux pas prendre, il faut un quart d'heure pour cracher assez, pour machin, donc c'est pas un truc que tu peux faire à l'insu de ton plein gré, quoi.
D'accord, et il faut embrasser personne avant, pendant la journée qui précède ton test et tout, truc contraignant. Donc, ou pas lécher les
barres de métro.
Dans le métro, tu vois, voilà, exactement. mais du coup, depuis, donc ils vont étudier ça, et puis vous renvoyez un rapport avec... des données qui sont pas forcément surprenantes, hein, couleur des yeux, couleur des cheveux, les données sur ce genre de choses, mais aussi des données, l'essentiel de leur business, c'est sur les données sur le comment on dit, ancestry, les origines ethniques et éventuellement les problèmes de santé. Mmh. Donc, ils vont étudier ça et vous renvoyer vos données là-dessus. Et vous pouvez apprendre, par exemple, que vous avez, je ne sais pas moi, 2% d'origine de tel, de j'en sais rien, indien-américain, que vous avez 4% d'Africain, etc., etc. Or, ce que disent beaucoup d'observateurs depuis le lancement du projet, c'est que bah, c'est des données quand même, les données les plus personnelles qui sont, qu'on ne voudrait pas avoir dans la nature. Et qu'est-ce qui se passe si ils se font hacker? Devinez ce qui s'est passé! Ils se sont fait hacker!
Alors, t'es étonné.
C'est vicieux parce que ce n'est pas un hack par lequel ils sont, des hackers sont rentrés dans... le système informatique de la boîte, etc. C'est plutôt un hack par lequel ils ont utilisé une fonctionnalité du système qui vous permet d'avoir, de trouver, comment ils appellent ça, je ne me souviens plus, c'est genre votre famille génétique ou un truc comme ça, des gens qui sont proches de vous génétiquement. Et ça ne veut pas dire qu'ils font partie de votre famille, hein, mais c'est juste qu'ils sont proches de vous avec telle et telle donnée génétique. Et du coup, ils ont récupéré, ils ont scrappé tout un tas de données et ils ont commencé à en mettre en ligne pour montrer qu'ils les ont bien, ces vilains hackers. Ils ont publié les données sur 1 million de personnes. Alors, ils ont publié des trucs du genre, que là encore, je ne dise pas de bêtises, le nom, le sexe, l'année de naissance et surtout des détails sur les origines ethniques. Et essentiellement, évidemment, les spécialistes disent que c'est pour faire parler d'eux. Évidemment, ils ont publié des données de personnes essentiellement d'origine juive. Ça fait toujours... c'est pratique, hein, ça fait du buzz. Et puis, ils les vendent. Les prix vont visiblement de 1 à 10 dollars par personne en fonction de combien vous en achetez. Genre, tu m'en prends tant et tant et tu as un prix réduit. Il semblerait qu'on ne puisse pas... Il semblerait qu'on ne puisse pas choisir quelle... données on va vouloir, genre je voudrais les gens qui sont d'origine de tel ou tel truc, et il semblerait aussi qu'il n'ait pas les données génétiques brutes. Enfin, en tout cas, il ne les publie pas. Données génétiques brutes, donc on ne va pas avoir l'ADN lui-même disponible.
Donc on ne peut pas te recréer à partir du leak.
On ne peut pas te cloner entièrement.
C'est rassurant.
C'est ça. C'est rassurant.
Alors, non, mais Cédric, en vrai, ça pose tellement de questions.
Vas-y, Pauline, vas-y.
Non, mais je trouve ça fascinant. Enfin, je veux dire, il y a 23andMe, mais il y a beaucoup d'autres entreprises, particulièrement américaines, qui sont sur ce business-là de retraçage d'ADN depuis super longtemps. Et tu demandais à quoi ça peut servir. Il y a des très, très bonnes histoires aux États-Unis, notamment de personnages éminents du Ku Klux Klan ou de l'extrême droite américaine, qui ont fait des tests ADN pour prouver à quel point ils étaient hyper blancs, ariens,
purs,
si tu veux. Et, exactement, et donc ce clan très raciste, très antisémite, etc., et qui se sont retrouvés en fait avec un patrimoine génétique où je ne sais pas combien de tièmes de degré, en fait, découvraient qu'ils avaient des origines juives, notamment ashkénazes, plutôt côté Europe de l'Est. Et il y avait eu une histoire comme ça, je me rappelle, aux États-Unis il y a quelques années, d'un éminent membre du Ku Klux Klan qui avait découvert qu'en fait, il avait de la famille juive. Et donc forcément, ça remet un peu tout en question. Et sur cette histoire-là, il y a un super documentaire sur Netflix qui s'appelle I Am Your Father ou I Am Not Your Father, mais qui est en gros sur une histoire de don de sperme dans une clinique aux États-Unis. En gros, c'est une madame qui un jour, elle sait qu'elle est née d'une FIV, d'une fécondation in vitro, et donc que son père n'est pas son père biologique, mais elle essaye de voir si elle n'a pas genre des frères et sœurs, entre guillemets, des mêmes donneurs. Enfin voilà, elle fait un petit peu son enquête génétique. Et en fait, elle commence à voir qu'elle n'a pas un ou deux demi-frères, demi-sœurs, mais elle commence à en avoir 10, 20, 30, 50. Et en fait, c'est parce que le gérant de la clinique de don de sperme mettait lui-même sa propre semence pour ses patientes. Je te jure, c'est une histoire vraie. Il y a un documentaire sur Netflix qui est incroyable.
Il a 600 enfants, enfin un truc. Oui, voilà.
Ouais. Et ce mec, il a été attaqué en justice parce que c'est totalement illégal de faire ça. Et du coup, tous les demi-frères et demi-sœurs, ils se sont constitués partie civile. Mm-hmm. Et ça a créé une histoire... le documentaire est assez ouf, quoi, parce que on voit tous ces gens qui se rendent compte de ça, quoi.
Si on peut même plus rendre service.
Non, mais c'est abusé parce que c'est sans consentement des patients et tout,
non,
tu
évidemment,
vois.
Hein,
mais c'est ça me rappelle beaucoup le film québécois Starbucks, qui est un peu sur cette même histoire aussi. Qui est exactement la même histoire, mais ça pose plein de questions, en effet. Sur ces trucs de patrimoine génétique et d'ADN, là. Mais c'est
évidemment, là, enfin, on parle d'histoires rigolotes qui peuvent être liées à ce genre de sujet. Je crois que la fuite de ces données, Cédric, tu disais là encore, ah oui, mais enfin, à quoi ça peut servir ? Il y a quand même, tu peux imaginer, des gens qui vont avoir leur intimité dévoilés et qui ne sont pas forcément ni heureux que ça se passe. Et puis les conséquences, que ça soit pour des questions d'origine ethnique, parce qu'il y a du racisme et qu'il y a du racisme dans le monde, c'est problématique. Et puis, on nous dit dans la chatroom également, ça pose la question non seulement pour tes propres données, mais aussi pour ta descendance. Il y a des questions d'assurance. Alors, c'est plus régulé
là, je ne suis pas d'accord. T'imagines, ton assureur va aller chercher des données hackées pour recalculer ton contrat. On est chez les fous, là.
Aux États-Unis, c'est tout à fait possible.
Moi, je ne suis pas très étonné,
qu'ils vont aller récupérer des données hackées, mais si ce genre de choses se diffuse largement, une question de pre-existing condition, c'est quelque chose de très sérieux, et tu peux avoir un truc dévoilé sans ton consentement. Je ne sais pas s'ils vont aller regarder les données
Mais il faut voir ce que c'est qu'un profil 23andMe. Moi, je connais bien l'entreprise, je connais bien sa cofondatrice. On te dit pas tu as ça. Enfin, si, on te dit tu as tel gène. En gros, on te donne des pourcentages de prédisposition, des choses, mais qui ne veulent pas dire que tu es malade ou que tu vas être malade.
Non.
C'est pas ça, tu vois. On te dit, voilà, vous avez 14% de plus que la moyenne de la population de chances de développer un diabète de type 2. Vous avez. Enfin, tu vois. Et c'est des choses qu'il faut en plus mettre en parallèle avec des facteurs environnementaux d'hygiène de vie. Enfin, voilà. Donc là-dessus, je suis pas très inquiet. Après, dire oulala, vous avez peut-être 4% d'hérédité qui est juif ashkénaz. Oui, alors très bien, mais c'est toute l'Europe centrale. Donc si tu veux, c'est comme toute l'Amérique et le reste qui ont été quand même colonisés par les Irlandais qui se sont insérés dans le patrimoine génétique de l'essentiel du continent. Ils sont très forts pour ça. Si ma fiche était là-dedans et si elle arrivait dans les mauvaises mains, qu'est-ce qu'il pourrait vraiment faire avec ? Pas grand-chose. Après, je conçois que ce soit très embarrassant pour 23andMe. Mais tu sais qui sont les premiers hackers de 23andMe ? C'est la police. Parce que
tu mélanges un peu là, Cédric.
Je mélange pas. Attends, et là, ça pose une vraie question, parce que ce que des hackers dans une cave font, c'est la vie, c'est des criminels, que vous dire. Mais il y a eu des vraies questions sur la police qui utilisait ces plateformes justement pour y insérer des profils génétiques, des profils ADN inconnus, et pour voir justement s'ils arrivaient à trouver des profils proches, pour retrouver un parent, un cousin, un machin, une localisation, etc. Et ça marche très bien. Il y a des gens qui ont attrapé comme ça. Mais ça pose quand même là la question, parce que là, c'est la puissance publique qui commence, qui viole en gros les conditions d'utilisation du site. Voilà, tout ça pour dire que bon, je comprends,
alors,
c'est embêtant.
Tu demandes ce qu'on peut faire. Et tu as souvent tendance, avec raison, à rappeler qu'on est peut-être alarmiste sur certaines utilisations de données et que parfois, ce n'est pas justifié. Mais en l'occurrence, on a quand même potentiellement un fichier un fichier qui inclut les données ethniques des gens et les données médicales des gens. Et ces choses sont régulées en France et en Europe pour des raisons tout à fait justifiées.
C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser 23andMe. Hein. Toi et moi,
nous n'avons pas le droit, tu dis, tu coupes un petit peu. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que maintenant, il y a dans la nature potentiellement, alors je ne sais pas s'il y a des données, je prends un exemple, des données de localisation, d'adresse qui sont incluses dans ces fichiers. Mais tu pourrais, par exemple, si tu as une immense feuille Excel, faire une extraction. Alors, je voudrais tous les gens qui ont au moins 30% d'origine juive qui vivent dans tel quartier. Et tu sors une fiche comme ça, tu vois. Alors, je crois que c'est quand même quelque chose qui n'est pas complètement du domaine de la science-fiction avec un fichier de ce type.
Non, bien sûr.
Donc, c'est quand même préoccupant pour ces raisons-là. C'est pas bénin, tu vois. Là, dans ton commentaire, Cédric, j'ai l'impression que tu dis « Oh, ben, c'est bon, ça n'a aucune importance, ça peut,
non, mais
y a rien
de
mal qui va arriver. » J'espère.
Ce que je veux dire, c'est que le pire n'est jamais sûr et que la particularité de ce fichier, de cette fuite de fichiers-là, comparée à aux centaines de data leaks qu'on voit partout, on fait pas un animal terriblement différent, voilà.
Ah si, il y a les origines ethniques et les données de santé.
Non, mais les origines ethniques, si tu prends l'annuaire, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux faire un fichier de juif ashkénaze, tu prends, je sais pas, l'annuaire de New York et tu le fais par rapport au nom de famille. Si tu veux, ce que je veux dire, c'est non, que les utilisations
dans l'annuaire, il n'y a pas écrit à côté du nom. C'est pas un fichier informatique. C'est régulé spécifiquement les fichiers informatiques.
Mais je comprends
parce
très
que
bien.
Il y a une facilité de tri et d'extraction de données qui est plus importante que dans un annuaire. Dans l'annuaire, il n'y a pas écrit, tu vois, à côté du nom et dans un fichier informatique, Patrick Béja, qui habite à côté de Central Park, a 45% de patrimoine génétique juif
sépharade. Et indiqué dans l'essentiel des documents publics. Hein. On sait si tu es blanc, noir, hispanique, etc., etc. C'est pas là aussi, c'est faut le remplacer dans un contexte. Bon, c'est pas voilà. Tout ce que je veux dire, c'est très embêtant. Mais... c'est pas la fin du monde.
Moi, sur ce point, d'accord.
Ouais,
entre ces trois, c'est pas très embêtant et c'est pas la fin du monde. On se retrouvera effectivement.
Accessoirement, le papier de Wired le rappelle. 23andMe, attendez, il faut quand même qu'on vérifie de notre côté que ces données sont bien ce qu'elles disent être. Et il y a un souci parce que de fait, il y a des profils remarquables. Il y a Zuckerberg, Elon Musk, Sergey Brin. Ils sont aperçus que Sergey Brin et Elon Musk apparemment partagent le même numéro de client.
Donc il faut les valider. Voilà. Pauline, tu veux conclure là-dessus? Tu voulais dire quelque chose?
Non, mais je trouve que ça pose plein de questions. Moi, je pense au niveau. En fait, je pense que c'est à mettre aussi en effet dans un contexte où entre, par exemple, notamment les États-Unis et l'Europe, il y a une protection des données qui est quand même très très différente. Mais ça pose vraiment question. En fait, je trouve ça intéressant de le regarder d'un point de vue justement français et européen où on a une meilleure protection des données en regardant ce que les États-Unis font de pire à ce niveau-là en termes de protection des données et de se dire qu'en fait, il y a une possibilité juste de blackmail, en fait, de chantage. Sur des origines ethniques, sur des problèmes de santé, et aussi rappeler que il n'y a pas très très longtemps en France, c'est Pôle Emploi qui a été hacké et qui a vu ses données personnelles en ligne. Et moi-même, j'ai reçu un magnifique mail de Pôle Emploi disant ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Et moi, j'avoue que ça m'a beaucoup inquiété. Moi, ça m'a beaucoup inquiété ce truc-là de donner. De données Pôle emploi, même si, pareil, on pourrait se demander à quel point elles sont sensibles, ces données Pôle emploi. Bon, de savoir que je suis pigiste et que du coup, je touche le chômage, est-ce que c'est très grave? Je ne sais pas. Mais ça pose des questions quand même. Et de se dire qu'aussi, en termes de hack, je crois qu'on en parle la dernière fois en plus, mais que les établissements de santé sont de plus en plus hackés en France, les hôpitaux particulièrement sont victimes de hacks très régulièrement, et de rappeler qu'en fait, les données de santé, ça reste des données hyper sensibles, et ça peut être facteur de discrimination à l'embauche, au travail, à l'assurance aussi, même si on est moins extrême que les États-Unis. Ça reste quand même plus compliqué, je sais pas, pour acheter une maison, avoir un prêt, avoir accès à certains biens et services. Donc, mais je trouve qu'il y a tout un truc autour de, un peu aussi, parfois du business aussi de l'analyse ADN qui, moi, me pose énormément de questions là-dessus et de quel point. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui explose et notamment sur TikTok et tout, des gens qui essayent de savoir un peu d'où ils viennent. Et ça, je sais pas, ça pose plein de questions, le fait de monétiser ça, enfin, je sais pas. Ça me pose plein de questions.
Il y a quelques années, j'aurais dit « Ah, mais peut-être qu'un jour, tout le monde saura tout et ça ne sera pas un problème parce que tout le monde sera au grand jour. » Et donc, tout le monde s'aimera plus. Machin. Bon. Écoutez,
c'est beau, c'est utopiste.
Oui, c'est pas comme ça que ça marche, il semble. Et justement, en parlant de « c'est pas comme ça que ça marche », peut-être que parfois, ça marche exactement comme c'était prévu. En tout cas, pour Elon Musk, avec le troisième sujet.
Oh là là. Je suis fatiguée d'avance et en même temps, j'ai tellement de rage en moi, Patrick. Vraiment,
Écoute,
oh là là.
Je suis... comment dire, j'ai titré « Mission accomplie, Musk a détruit la vérité ». Et c'est en y pensant que j'ai fait ma capture d'écran de ma tête fatiguée. Et donc, j'ai rajouté ensuite, entre parenthèses, « fatigue ». C'est pas que j'ai envie de parler d'Elon Musk et de ce qui se passe sur son réseau, c'est que malheureusement, c'est nécessaire et c'est important pour comprendre ce qui se passe sur le réseau, sur Internet et même au-delà. D'ailleurs, on va certainement, ça va encore m'attirer des petits commentaires iTunes genre « Ah, Patrick est moraliste, voilà, il dit ce qu'il faut penser, il fait la leçon ». Non, non, c'est pas vraiment ça mon intention en tout cas. C'est qu'il y a une mouvance, en particulier aux États-Unis, qui s'est inscrite dans... Alors, ce que je répète depuis un moment et ce qui est devenu clair avec les révélations du procès, des procès multiples contre Donald Trump, c'est que les événements du 6 janvier 2021,
ouais, 2021.
Auxquels on référait pudiquement... Enfin, on avait l'impression que c'était un incident avec un groupe de surexcités motivés par Trump qui était rentré dans le Capitole. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'était un élément minime de ce qui s'est passé, puisque ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est véritablement une tentative de coup d'État. Vraiment, c'est le président en place qui a non seulement, c'est pas juste que dans les discours, il disait « Oh là là, mais ils ont volé l'élection, machin ». C'est pas qu'il a fait que des discours déjà complètement alarmistes et extrêmement dangereux pour la démocratie. C'est qu'il a effectivement tenté de subvert, de changer le résultat d'une élection et qu'il a demandé aux administrations, aux officiels, de changer le résultat. La plupart ont refusé, heureusement, et maintenant, c'est tout un tas de procès qui sont en cours pour arriver aux conséquences de ça. La raison pour laquelle je ramène encore cette chose sur le tapis, c'est que Elon Musk semble suivre exactement le procédé de Trump pour détruire la vérité. Et avec les événements qui ont lieu depuis samedi au Moyen-Orient, en Israël, eh bien de plus en plus de journalistes constatent que sur Twitter, la vérité n'existe plus en raison spécifique des actions de Elon Musk sur Twitter, qui semble-t-il en plus aurait suivi un plan écrit par un suprémaciste blanc. C'est, vous allez me dire, mais c'est de la science-fiction, tu machin. Non, c'est pas de la science-fiction. Je vous mettrai les liens dans la newsletter. C'est complètement noir sur blanc, avéré, ces choses-là. Et ce qu'il a fait, donc, c'est qu'il a créé un contexte où la désinformation est favorisée. Donc, la frontière entre l'information vérifiée et la désinformation a été complètement floutée, avec notamment le fait de supprimer, enfin, de changer la signification de la vérification des comptes. Eh bien, on ne sait plus à qui se fier. Elle est rémunérée parce qu'il paye les gens qui font le plus de clics. Et évidemment, on sait que ce n'est pas les gens qui disent les choses les plus sensées qui font le plus de clics. Eh bien, il paye, donc ça diffuse l'information plus plus largement. Et en plus de ça, ils sont, cette désinformation est immunisée. C'est vraiment, on parlait d'ADN tout à l'heure, c'est rentré dans l'ADN de la plateforme en raison des changements qu'il a implémentés. La désinformation est immunisée parce que les équipes de modération ont été réduites, ont été même décimées, et même les outils qu'ils utilisaient pour identifier la désinformation, il y avait un outil par exemple qui coûtait peut-être un petit peu cher, mais qui était prévu pour identifier des médias copiés et présents à plusieurs reprises sur la plateforme. Ça permettait de voir quand une fausse information, une fausse image, un faux média se diffusait. Et ben cet outil n'existe plus dans l'équipe de modération réduite de Twitter. Donc c'est vraiment des choses concrètes. Et tout ça, ça a amené à plusieurs journalistes, à l'occasion des événements de ces derniers jours, de constater comme William Raymond, c'est un journaliste qui suit de très près l'affaire Twitter. Alors, il a tendance à être un petit peu emphatique, on va dire. C'est toujours Donald Trump est terrifié, machin. Bon,
c'est son vrai sujet, Donald Trump. Moi, je connais bien William, c'est un mec remarquable. Le truc, c'est pas ça. Faut jamais oublier. Excuse-moi, qu'on a pas tous le même Twitter.
Je veux juste finir sur ce point. J'ai presque fini. William Raymond, notamment, je le prends en exemple parce que c'est symptomatique de ce que j'ai vu par ailleurs. Il dit, et Twitter est un outil qu'il utilise depuis longtemps. C'est un journaliste indépendant d'investigation qui est aux États-Unis depuis longtemps. Il a fait plein de reportages extrêmement recherchés. Et il couvre en ce moment Donald Trump spécifiquement, mais il dit Twitter ne sert plus à rien, ou presque. C'est le constat que j'ai fait hier. En Israël, c'est l'horreur, et sur ma timeline, c'est le chaos. Pourquoi ? Des vidéos truquées, des photos recyclées, des mensonges à la tonne, des tweets antisémites, de la haine, et tout ça est sans conséquences. Et ça a disparu, et c'est la réalité de ce qu'on pouvait repérer de véritable ou pas a été écartelé, et ça a disparu. C'est pas par accident, c'est parce que Musk a fait ce qu'il a fait sur cette plateforme. Donc on en parle là spécifiquement pour ce sujet, mais c'est un moyen de démontrer ce qui se passe sur Twitter. Et puis certains posent aussi la question de comment dire. Il y a un titre que j'ai bien aimé, c'est The Moral Case for No Longer Engaging with Elon Musk's X. Donc, le cas, l'idée, le débat sur est-ce qu'il faut encore utiliser Twitter, en gros. Et je vous épargne cet article parce que c'est encore une histoire de modération qui ne se fait pas. Et donc, des contenus qui sont horrifiants, mais qui ne sont pas juste horrifiants et pas modérés, qui sont horrifiants, diffusés et motivés financièrement à la diffusion, parce que les comptes en question sont rémunérés par Twitter. Sans aucune intention de modération.
En fait,
Cédric, vas-y.
Ouais, en fait, il fait exactement les mêmes conneries que Facebook a fait en son temps. C'est-à-dire de favoriser la vélocité de contenu qui crée de l'engagement, comme on dit, l'a dit, les contenus qui créent le plus d'engagement, comme disaient les Américains, what enrages engages. Donc, ça a été reproché à Facebook, mais il y a 10 ans, donc j'ai l'impression que l'histoire se répète. Sinon, Musk devrait justement avoir le recul de voir ce qui s'est passé ailleurs et de dire, bon, ils en sont revenus, il y a des raisons à cela. Le problème, c'est que Musk est probablement persuadé qu'il est toujours le mec le plus intelligent dans la pièce, ce qui est vrai dans l'essentiel des cas, mais c'est pas toujours vrai. Et qu'en gros, les règles habituelles ne s'appliquent pas à lui. Et que, le truc, c'est qu'à un moment, il va voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, parce que c'est pas un jouet. Tu vois, s'il avait payé, je sais pas, 30 millions de dollars pour s'acheter Twitter comme une danseuse, on dirait, bon, ok, il fait n'importe quoi avec, mais bon, c'est une danseuse. C'est pas une danseuse, ça lui a coûté une fortune, il sait qu'il les refera pas de sitôt. Je suis pas sûr que l'augmentation du trafic entraîne une augmentation du chiffre d'affaires dans les mêmes proportions, parce que les marques aussi du coup hésitent. Et forcément, alors c'est amusant parce qu'elles hésitent moins chez nous qu'aux États-Unis. C'est peut-être lié aussi à un contexte particulier. C'est ce que je voulais dire sur William Raymond, c'est qu'il est tellement dans, la dénonciation de tous les trucs sur Trump, etc., que son environnement sur Twitter est quand même, on n'est pas loin du fond de l'égout, quoi. C'est pas, et c'est pour ça, moi, je fais l'effort à chaque fois que je démarre X sur mon téléphone d'aller uniquement voir mes abonnements. Je regarde pas ce que Twitter veut me pousser parce que de toute façon, ça va faire remonter à la surface que des trucs avec lesquels j'ai pas forcément envie d'interagir. Et c'est amusant parce que régulièrement, je vois des trucs en disant qu'est-ce que c'est que c'est... Ah, je suis pas dans le bon feed. Je vais revenir sur mes abonnements à moi, merci. Et les gérer un peu plus, avec un peu plus de discipline. Mais je suis d'accord que oui, enfin, c'est-à-dire que là, il y a plus de, enfin, la modération a plus les moyens de modérer. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Je suis d'accord sur le fait qu'on avait les coches bleues, comme on dit, comme repère auparavant, et que ce repère, on l'a perdu. Enfin, donc oui, c'est, enfin, t'as l'impression d'arriver dans une soirée où tout le monde est bourré quand tu regardes le feed que propose Twitter et que c'est pas juste des abonnements. C'est pas
sur
c'est
certains
pas très
sujets
intéressant.
Évidemment. Sur certains sujets.
Moi, ouais, évidemment. Et du coup, moi, j'interagis beaucoup moins.
Parce que le truc que je rajouterais avant de donner la parole à Pauline, c'est que tu sembles dire qu'il le fait comme ça parce qu'il ne sait pas. Et moi, j'ai du mal à croire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Non seulement parce que ce n'est pas un abruti et qu'il a vu ce qui s'est passé avec Facebook et les autres et qu'il n'est pas plus con que le reste des gens, et peut-être même le contraire. Et d'autre part, parce que lui, ce qu'on voit de ses intentions, de ses tendances, de ses proclivités... sont de plus en plus clairement MAGA chez MAGA. Il retweet des comptes qui sont conspirationnistes, il oriente les gens vers des idées qui sont « ne faites pas confiance à la presse, le journalisme est partout, n'importe qui, faites confiance aux gens qui sont dans votre timeline plutôt ». Enfin, tu vois, c'est pas ah oui,
il nous refait le coup du journalisme citoyen 15 ans plus tard, alors qu'on
sait
que
c'est pas du journalisme. Sauf que, enfin, il me semble assez clair que c'est intentionnellement pour détruire la confiance en l'élite journalistique des côtes, tu vois, exactement comme le faisait Trump. C'est difficile de regarder le corpus de tout ce qu'il a fait depuis, on va dire, 2 ans sur Twitter et de ne pas conclure que, bon, bah, il est simplement pour dire les choses, on ne va pas reprendre du début à chaque fois. Il est droite MAGA, quoi. Et donc, sa
méthode
populiste...
C'est même pas ça, parce qu'en fait, il n'a pas intérêt à le faire.
Mais...
C'est-à-dire que sur le long terme, ce n'est pas son intérêt. Okay. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est difficile de réfléchir comme ça sur quelqu'un qui joue contre son propre portefeuille, en tout cas.
Quelle est l'intention finale ? C'est peut-être la question qu'on pourrait poser. Mais Pauline...
Voilà.
Moi, j'aimerais compléter là-dessus, parce que je pense qu'au-delà de la question de... juste entre guillemets la question de l'advertisement et de du enfin de qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie pour gagner sa croûte aussi avec Twitter, le rentabiliser, enfin tout ça, je pense que moi je suis assez d'accord sur le fait que enfin Elon Musk a une pensée politique et a une stratégie politique liée à son rachat de Twitter et à son utilisation de Twitter dans les règles qu'il a mis en place et c'est pas nouveau. Et je pense que sur cette question-là, par exemple, le fait de nier la vérité, Trump a amorcé quelque chose, a rendu très public et très décomplexé le fait de dire qu'il n'existe pas une vérité, mais il existe des vérités. Et Elon Musk, il se situe un petit peu dans cette continuité, comme tu le disais, cette espèce de journalisme citoyen 15 ans plus tard, là. Mais quand on regarde, moi, ça fait longtemps que je travaille un petit peu aussi sur... les conséquences de la modération catastrophique qui se passe sur Twitter depuis le rachat par Elon Musk. Et c'est aberrant. Là on parle du cas du conflit israélo-palestinien. Mais en fait, c'est le cas sur quasiment tous les sujets politiques où il y a vraiment les pour et les anti, quoi. Il y a vraiment une volonté de la part d'Elon Musk de faire fructifier des informations, de faire... De mettre en place en tout cas des stratégies et même en fait Elon Musk se cache pas sur Twitter lui-même de retweeter des trucs hyper de droite, hyper racistes, hyper antisémites, hyper transphobes aussi et toutes les associations et les comités on va dire qui travaillent sur Twitter, qui font de l'analyse de data sur, depuis le rachat montrent qu'il n'y a jamais eu autant de tweets discriminatoires, racistes, homophobes, etc. depuis que Elon Musk a racheté. Et un cas, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est mon sujet de travail, moi, je travaille beaucoup sur les masculinistes, et au moment où Andrew Tate, qui est considéré comme le roi des masculinistes, enfin, mm-hmm. c'est autoproclamé, en tout cas, voilà. À l'été 2022, il s'est fait bannir de tous les réseaux sociaux. Il s'est fait bannir pour incitation à la haine, notamment envers les femmes. se bannirent de partout. Et le seul réseau social sur lequel ils continuent de pouvoir poster, c'est Twitter, parce que Elon Musk, manuellement, a remis le compte d'Andrew Tate en actif, quoi. Et je trouve que c'est quand même très... ça montre quelque chose de cette plateforme. Puis là, avec ce qui se passe, et là, c'est la journaliste qui parle, mais avec tous ces changements de fonctionnalités, le fait de pouvoir voir le titre des articles, d'avoir
que j'ai pas mentionné,
j'explique. C'est incroyable aussi, quoi.
Les articles, les liens, n'incluent plus le titre et le petit résumé dans l'encart, dans le tweet, mais incluent juste la photo mise en avant de l'article avec le nom du site d'où ça provient. Ça floute complètement les trucs. Je crois que l'intention me semble relativement claire, c'est-à-dire de mettre à égalité tout le monde et machin. Sauf que du coup, on est curieux, on clique dessus et ça envoie plus de trafic peut-être vers les sites que avant. J'en sais rien. Que quand vous voulez juste lire le titre
les
et savoir.
Les sites ont pas l'air contents. Hein. Les sites non. disent plutôt attendez, on va avoir du trafic en moins. Ce à quoi Twitter répond, c'est pas grave. Vous avez qu'à poster plus de contenu directement chez nous.
Mais c'est un marché qui ne marche pas.
Fini, Pauline. Je voulais juste expliquer.
Non, mais c'est pour dire ça. Moi, je pense que là, on le voit. J'ai vu qu'il y avait un article de Wired ce matin sur qui confirmait justement là tout ce qu'on disait sur le fait que Twitter était rempli de désinformation. Mais moi, je pense que ça pose aussi la question. Mais de toute façon, c'est la question qui est lancinante et latente depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. C'est si maintenant Twitter c'est devenu ça, est-ce qu'on doit le quitter? Où est-ce qu'on va? Et je pense qu'en tout cas, moi, en tant que journaliste, c'est vraiment une question que je me pose parce que je suis journaliste indépendante et du coup, Twitter, c'était une manière de promouvoir mon travail et de aussi choper des collaborations, de pouvoir faire des appels à témoignages aussi pour trouver des histoires, d'avoir des gens passionnants. Et en fait, au fur et à mesure que ça devient cet espace-là, on n'a plus du tout envie d'y aller. Et en même temps, je n'ai pas l'impression que depuis le rachat, il y ait d'autres plateformes et pu remplacer Twitter dans le Twitter qu'on l'a connu.
Alors,
et du coup,
moment,
je trouve que ça pose plein de questions de est-ce qu'on n'est pas maso à rester là-dessus, quoi.
En ce moment, comme depuis quelques semaines, Blue Sky gagne en popularité, et en particulier en France, beaucoup plus que Mastodon. C'est surprenant, peut-être parce que c'est plus simple aussi. Mais on a d'ailleurs sur le Discord un petit forum dans le forum d'échange de codes Blue Sky. Je l'ai mis en place parce que les gens partageaient des codes un petit peu partout sur le Discord. Donc j'ai mis en place ce truc. Si vous cherchez un code Blue Sky, peut-être que vous pourrez l'avoir sur notre Discord. Mais je vois énormément de gens arriver sur Blue Sky. Alors ça reste une échelle minime par rapport à Twitter. Mais pour revenir à Twitter, il y a deux choses que je voudrais dire. D'une part, on pouvait dire, ah ouais, on ne sait pas, est-ce qu'il fait ceci, pour cela, qu'est-ce que... Et on s'est fait avoir une fois, tu vois, avec Trump, le lapsus est révélateur. On s'est fait avoir une fois, on disait, oui, il fait comme ci, il fait comme ça. Enfin, il est pile sur la ligne, et c'est pour ça que je rappelais ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce n'est pas quatre couillons qui sont rentrés dans le Capitole pour foutre le bordel. C'est une tentative de coup d'État. Quand tu as eu la dernière tentative de coup d'État aux États-Unis, il y a 3 ans. Tentative de coup d'État par le président sortant. Comprenons bien de quoi on parle. Mm-hmm. Musk s'inscrit dans cette lignée complètement. Alors, est-ce qu'il a un plan ou pas pour Twitter? Je mettrai encore une fois dans les notes de l'émission le lien vers l'article du projet qu'est en train d'appliquer Musk. Et il y a des choses assez surprenantes, comme par exemple spécifiquement le fait de reprocher à l'Anti-Defamation League de provoquer l'exode des publicitaires de Twitter, machin. Enfin, il y a 4 étapes spécifiques qu'il est en train de suivre. Un truc qui a été écrit par un suprémaciste blanc qui a été viré de la Maison Blanche parce que ça se voyait trop. L'autre chose que je dirais en conclusion de mon côté pour Twitter, c'est que il y a 2-3 ans encore, je répétais à l'envi aux gens qui disaient « Twitter, c'est le bordel, personne ne fait la modération, ils ne veulent pas, ils ne font pas d'efforts, machin. » Et je répétais à l'envi « La modération, c'est dur. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est des décisions compliquées avec lesquelles tout le monde, enfin, il n'y aura jamais tout le monde qui est d'accord. C'est hyper dur. La situation est pas génial, mais c'est le mieux qu'on puisse avoir étant donné le contexte, quoi. Et genre, non, c'est le bordel, Twitter, il laisse les gens parler de ceci, il y a des racistes, il y a des masculinistes, il y a des machins. Alors oui, dans une certaine mesure, mais c'est hyper dur, la modération. La version c'est le bordel, on l'a maintenant. La modération n'existe quasiment plus. Ils font pas d'efforts, clairement. Ils sont contents de voir se diffuser la désinformation. Donc, s'il y a une sorte de silver lining dans cette histoire, de côté positif un petit peu, pour conclure avec... c'est que, souvenons-nous de ça, et quand un réseau social fait des efforts, ou quand il y a une entité qui s'attaque à un problème qui est compliqué, reconnaissons quand ils essayent. Et reconnaissons que le problème est compliqué et que ce n'est pas forcément l'entité qui ne fait pas d'efforts. Donc, c'est le truc que ça m'amène aussi, en plus de mes poussages de gueule. Bon. Ah. Allez. On va continuer avec d'autres sujets. Avant ça, je voudrais vous rappeler que... Est-ce que vous aimez le rendez-vous tech ? Est-ce que vous appréciez la manière dont on couvre l'actualité ? Est-ce que vous êtes content d'entendre parler de cette semaine ? On parle quand il faut, hein. Mais on le fait de manière, j'espère, un petit peu poussée. On le fait avec des opinions différentes. Quand Cédric est là, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des opinions différentes.
Ça, c'est mon côté contrarian.
C'est ça. Et c'est important à voir aussi, hein. Vous savez, il y a... vous connaissez l'histoire... Merde, comment il s'appelle ? Bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais l'histoire de la personne dont c'est le rôle dans les discussions militaires en Israël, je ne sais pas s'ils les ont encore, mais de se poser en contrarian, justement, en disant le contraire, juste pour explorer la possibilité qu'on se plante. Genre, il y a une réunion de 20 généraux, bah, y en a un dont le rôle, c'est d'explorer, comme les, vous savez, les concours de débat aux États-Unis où il y a quelqu'un qui doit prendre la position, même s'il n'est pas d'accord, genre prendre la position et essayer de la défendre le mieux qu'il peut. C'est pas dommage,
il devait être en vacances la semaine dernière. Hein, mais
c'est... Oui, c'est bon. le... Où j'en étais ? Patreon ! Pourquoi je vous dis ça ? L'émission, on essaye de couvrir les sujets sérieusement, en profondeur, de dire les choses comme elles sont et de les dire... comment dire ? On peut, parce qu'on est dans ce format de podcast financé par des patriotes, on peut le faire comme ça. Le financement, le type de financement détermine souvent, trop souvent peut-être, le type de contenu. Si on est financé uniquement par la pub, eh ben il faut faire un certain type de contenu pour toucher le plus de monde possible, etc. Évidemment, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas envie de toucher le plus de monde possible. Mais le fait que j'ai votre soutien financier direct me permet de faire l'émission telle qu'elle est. Donc, si vous aimez l'émission telle qu'elle est, je vous encouragerai peut-être à aller voir du côté de patreon.com/rdvtech pour... considérez si vous voulez financer l'émission vous aussi pour 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que c'est. C'est super facile, c'est super rapide. Vous avez des bonus plutôt cool, je pense. Les after-shows, j'en ferai un tout à l'heure. Les éditos, j'en ai fait un ce week-end. Mais surtout, la fierté, j'espère, de participer à cet écosystème, cette industrie de création de contenu. D'ailleurs, il y a d'autres créateurs sur Patreon, hein, donc vous pouvez vraiment participer en vous faisant un petit budget mensuel et soutenir les gens que vous appréciez directement. Donc, merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Merci à tous ceux et à toutes celles qui écoutent l'émission depuis 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et qui se disent « Ouais, écoutez, c'est peut-être le moment. » Patreon.com/RDVTech.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Et on enchaîne avec la suite des émissions. J'ai sur mon écran, comme je parle beaucoup, moi, devant mon écran. Et donc, il y a parfois, quand je m'emporte, des tout petits trucs de postillons qui arrivent sur l'écran. c'est pas génial. C'est pas le truc dont je suis le plus fier dans mon métier, c'est ça.
C'est les risques du métier. Il faut savoir prendre en compte les pop.
C'est ça. Justement, Patreon a publié de nouvelles fonctionnalités dont je parle dans mon édito, mais qui sont intéressantes. L'écosystème de... En fait, en gros, je résume un point de mon édito. Vous pourrez l'écouter si vous êtes patriote. Mais le point intéressant, c'est que Patreon veut devenir le réseau social des créateurs au même titre que LinkedIn est le réseau social des professionnels. Instagram, il y a longtemps, était le réseau social des photographes, etc. etc. Donc, c'est une orientation qui est intéressante. Il y a des fonctionnalités intéressantes. On peut suivre des créateurs gratuitement maintenant, même si on n'est pas soutien financier. Moi, je regarde ça de mon côté. Mais d'une manière générale, l'écosystème de la création change tous les ans. Et là, c'est une adaptation qui est plutôt intéressante parce que et il en parle beaucoup, Jack Conti, qui est le fondateur de Patreon, dans sa vidéo, la manière dont il évolue. Encore une fois, j'en parle dans l'édito. Mais c'est ce qu'il dit, c'est la plateforme dont vous dépendez, il faut que vous puissiez lui faire confiance. Nous, on travaille pour vous, les autres, pas forcément. Donc, c'est une approche intéressante.
Spotify... Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Enfin, bref, je sais pas. Non, mais je trouve que c'est très lié à Twitter aussi, mais c'est un sujet qui anime un petit peu le journalisme indépendant depuis quelques mois, en tout cas, du côté de mes confrères consoeurs, où on voit que la presse galère de plus en plus. On a vu ce qui s'est passé avec le JDD, notamment. Et en tout cas, en tant que pigiste, on a de plus en plus de mal à parfois vendre des piges ou en tout cas trouver des médias avec qui on puisse avoir des collaborations régulières. Et tu vois, il y a vraiment un shift qui est en train de se faire, j'ai l'impression, depuis plusieurs mois, où il y a de plus en plus de journalistes qui ouvrent leur Patreon, qui se mettent aussi sur d'autres plateformes, je pense à Substack notamment, pour créer des newsletters aussi payantes. Et je trouve que ça pose plein de questions sur quel type de journalisme et quel type de création de contenu, de manière plus globale, on a envie de voir dans les prochaines années. Et on doit ouvrir des Patreons, demander de l'argent au public pour pouvoir faire du travail de qualité. Et je trouve que c'est une question hyper intéressante sur le monde des médias et le monde de la création. Et je trouve ça vraiment intéressant que ça commence à se développer un petit peu de plus en plus.
Je serais curieux de voir si Patreon réussit à prendre cette place ou si même cette place peut exister, parce que c'est bien gentil de dire...
Non, mais elle existe un peu déjà. Regarde ce qui se passe sur Substack et ailleurs, où tu as des journalistes qui deviennent leurs propres médias. Parce qu'en fait, c'est le mouvement, il est là. Moi, c'est un truc que j'ai vu au fur et à mesure même de l'évolution de l'Internet et des technologies. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, mais que je fais sur une chaîne de télévision, donc avec une grosse structure, etc., finalement, avec mon laptop et mon machin, voire mon smartphone, je peux le faire tout seul dans mon coin. Tout à coup, ça change même la structure de ce à quoi peut ressembler ton métier. Regarde ce qu'ont fait des amis et confrères. Jérôme Colombin, il a fait 25 ans chez France Info, et puis un jour, il a pris son micro sous son bras, puis il est allé faire son propre podcast, et finalement, il s'en trouve pas plus malheureux.
On parlait de Louis Prémont tout à l'heure, il est son propre média, la chatroom, on évoque Jérôme Marin, qui a lancé sa newsletter aussi, après avoir passé des années à San Francisco,
Non, c'est-à-dire que tout à coup, c'est des choses qui étaient impensables il y a 25 ans, et qui tout à coup, aujourd'hui, c'est pensable, mais évidemment, je comprends, pour l'avoir vécu pendant des années, le confort qu'il y a à avoir une fiche de paye tomber tous les mois, quoi qu'il arrive, si tu fais ton travail correctement.
Pourquoi tu crois que je parle tellement du Patreon ?
Mais c'est vachement important. Et puis surtout, c'est ça, c'est-à-dire que avant de vraiment gagner ta vie avec Patreon, il t'a fallu quand même du temps. Enfin, tu vois, c'est pas.
J'ai commencé avant que Patreon existe. Donc, c'est vraiment. Enfin, voilà. Avant que le concept n'existe. Moi, quand je me suis lancé dans le podcast, c'était pas un métier, quoi. C'était un hobby. Et c'est pas faute d'essayer, c'est au moment où Patreon a existé. On parle parfois, peut-être qu'on fera une discussion sur le sujet. En attendant, l'édito pour les patriotes.
Il faut inviter Jack Conte, alors, c'est pas compliqué.
Très simple. Je suis sûr qu'il a
pas même si ce que je préfère chez Jack Conte, c'est sa femme. Mais c'était pas le sujet.
Pamplemousse, très très bien cette chaîne. C'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à créer Patreon. Parce qu'il avait. Absolument. Il faisait des covers sur YouTube et il avait genre des millions de vues et il faisait $200 de revenus parce que c'était des covers, c'était pas. À propos de musique, Spotify, qui semble revoir à la baisse ses ambitions podcastiques, comme on en parlait les dernières ces dernières semaines, a eu une idée intéressante. Alors, il copie Audible qu'il fait déjà, mais dans l'offre premium de Spotify, il y a désormais 15 heures d'audiobook incluses. Alors, c'est des titres spécifiques, hein. J'imagine que vous n'aurez pas les dernières sorties, mais 15 heures par mois, c'est plutôt cool. Ce n'est pas suffisant si on veut écouter un livre entier, mais ça s'ajoute à l'offre existante. Offre premium partout. Il faudra que j'offre plus de trucs dans l'offre premium du NotePatrick. Le NotePatrick Plus, qu'est-ce que je peux offrir en plus ?
Que tu pourrais faire une lecture comme au The Event, des lectures du temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy.
Par exemple, il y a des trucs
Ce que faisait C8 pour remplir ses quotas de création française, où il prenait une jeune femme, la mettait sur un fauteuil et lui faisait lire un livre au milieu de la nuit, tu vois. C'était...
On va lire de la poésie, tu vois.
Il est 2h du matin, je vais vous lire Monterland, et elle faisait ça pendant une heure, super. Et ça rentrait dans
J'espère qu'elle était bien payée. J'espère qu'elle avait un bon cachet d'intermittence.
Convaincu.
J'aurais adoré faire ça.
J'en doute un peu. Les plus anciens d'entre nous peuvent se souvenir sur la 5, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans maintenant. Ils avaient le même problème de quota de création française et donc ils avaient une série qui s'appelait Voisins Voisines, parce que j'adore le nom.
Ça me dit quelque chose.
Mais oui.
Mais bien sûr, c'est célèbre, c'est connu comme le Loup Blanc. C'était une série comme une espèce de soap, enfin tu vois, c'est limite entre la comédie et le soap. Et le truc, c'est que le scénario, il tenait sur un post-it pour chaque épisode.
Ah oui, bien sûr.
C'était alors tu rentres chez toi et il y a machine, elle va passer te voir. Voilà, ça c'est le scénar de l'épisode. Et maintenant, allez-y. Et donc, tu voyais un garçon moi, que j'avais connu qui s'appelait un comédien qui rentrait chez lui et forcément, il fallait qu'il occupe le temps et l'espace. Et donc, tu vois qu'il rentrait chez lui et qu'il disait « je me ferais bien une salade au thon ».
Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une salade au thon ? Eh bien, d'abord, il faut faire ouvrir la boîte au thon.
De nos jours, tu demandes à ChatGPT d'écrire un scénario de voisin-voisine, ça sera de meilleure qualité.
Trop
on nous dit dans le chat.
Comment s'appelle ces émissions-là, trop mal filmées sur TF1 ou M6, enfin, qui passaient à l'époque. C'est genre le jour où tout a basculé, les trucs comme ça, là.
Ah ouais, mais c'est pas trop, parce que ça, c'était beaucoup de travail de faire les reconstitutions de machin, etc.
Oui.
Non, il y avait
des vidéos,
c'était pas de l'impro, c'était pas la ligue d'improvisation, là.
On nous dit dans la chatroom, dans 5 minutes, on nous parle de Guy Lux. On n'est pas loin. Je vais plutôt parler.
On est à deux doigts. On est à deux doigts.
Je vais plutôt orienter vers le futur et Windows 12 en vous disant qu'il n'est pas totalement impossible que Windows 12 fonctionne avec un abonnement. Alors, c'est un petit peu un truc qui revient régulièrement dans les possibilités des futures versions de Windows. Windows Plus, peut-être, ou Microsoft 365, Windows 365. J'ai du mal à imaginer que Windows de base fonctionne avec un abonnement, mais peut-être Windows Plus qui vous donnerait des fonctions supplémentaires à Windows plutôt que de le payer une fois. Enfin, qui paye Windows aujourd'hui ? Je peux imaginer un Windows gratuit avec des fonctions en plus si on paye. Genre, est-ce que tu veux avoir le clic droit ?
Tu peux. Un Windows gratuit sur abonnement ?
Non, un Windows gratuit et que si tu payes ton abonnement à Windows, tu as des fonctions en plus. Alors, tu peux avoir plus de 4 fenêtres ouvertes en même temps à l'écran, tu vois, ce genre de truc.
Ah oui, bon, on verra. Plutôt que la version gratuite soit une version estropiée, en fait. C'est,
oui, c'est parce que je manque d'imagination.
La tentation de l'abonnement, elle est puissante hein, en économie, parce que tout à coup, tu te retrouves avec des utilisateurs qui sont plus que des clients, mais avec surtout un business où tu peux prédire en gros ce que tu vas gagner dans l'année. Enfin, c'est extrêmement attirant. Il y en a que ça a attiré presque trop fort. Je voyais l'exemple de BMW qui, il y a 2 ans, a annoncé « Tiens, au fait, il y a des fonctions de la voiture que vous allez pouvoir avoir par abonnement. » Il faut dire qu'ils étaient coutumiers du fait. Ils avaient déjà fait un abonnement pour, si tu voulais... CarPlay. Si tu veux CarPlay, tu payes un abonnement. C'est
ils sont revenus en arrière, d'ailleurs, sur cet abonnement.
Voilà, ils sont revenus... Mais là, ils étaient revenus en avant en disant, mais tiens, par exemple, les sièges chauffants, on pourrait les vendre sur abonnement. C'est une bonne idée, non ? Alors, c'est intéressant, parce que d'autres te les vendent comme une option a posteriori, mais tu payes une fois. Tu ne payes pas un abonnement. Pour... Enfin, bon, bref.
Si tu arrêtes l'abonnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient chercher ton siège chauffant ? Genre comme les huissiers,
il marche plus. Non, c'est juste pour activer la fonction. Parce que ton siège chauffant, le hardware est déjà là, tu vois ce que je veux dire.
C'est drôle.
Moi, je trouve ça scandaleux, ces histoires d'abonnement. Je trouve que c'est lamentable. Je vous ai parlé de Patreon déjà ou...
Ouais, c'est ça. Mais alors, le coût de Windows par abonnement, moi, je voyais hier sur un site formidable qui te vend du logiciel pas cher, tu pouvais acheter un Windows 11 Pro pour $28. Donc, ça va être dur de soutenir la comparaison par rapport à ce genre de choses. Surtout, j'attends
non, mais c'est pour ça que je dis version gratuite.
Ou Microsoft va. J'attends le wording du communiqué de presse qui t'explique tous les
avantages incroyables.
Et bien, payer ton Windows par abonnement.
Oui, c'est sûr.
Non, ça me paraît compliqué.
Moi, je pense une version gratuite et une version plus par abonnement, c'est pas. Alors, qui offrirait des trucs en plus, genre, vous avez. Enfin, bref, des fonctions vraiment en plus. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe quand Facebook déprioritise, c'est un vrai mot que j'ai inventé, l'information. Qu'est-ce qui se passe quand Facebook déprioritise l'information ? Eh bien, il ne diffuse plus autant les liens vers les sites de presse, c'est-à-dire les vrais sites de presse, la presse en ligne. Ils ont décidé que la presse, c'est vraiment anxiogène et on ne veut plus trop de ça, autant de ça sur le réseau Facebook. Facebook, c'est un truc pour que les amis partagent des informations, des trucs cool, bonne ambiance, tout ça. Bah, le problème, c'est que les utilisateurs de Facebook, ils aiment bien quand même partager des informations. Et donc, d'autres liens vers d'autres sites de news, d'informations, qui ne sont pas dans les listes des trucs à déprioritiser, eh ben, ils ont pris le relais. Et notamment, selon ce rapport de Newsweek, sur les 10 articles les plus partagés en septembre 2023 sur Facebook, on parle des États-Unis, eh bien, 7 d'entre eux viennent du réputé site d'information CatholicFundamentalist.com CatholicFundamentalist.com
donc, au moins, c'est clair. Au moins, ils ne se cachent pas. C'est pas comme les,
c'est ça.
C'est pas comme les sites anti-VG, tu vois, qui mettent des...
Qui prétendent être des cliniques, tu sais, ouais.
De ouf. Au moins tu sais, là, tu sais où tu mets les pieds, quoi.
Je vous disais que ce n'était pas évident, la modération.
C'est terrible.
Voilà.
Non mais là ça, sur ça c'est enfin moi ça me mais pour être sur énormément de groupes Facebook divers et variés, mais enfin Facebook c'est terrible en termes de partage de fausses infos et de sites vraiment obscurs là, c'est
bien sûr TikTok.
Mais j'ai l'impression que ça fait oui.
Non ouais, bah,
ça dépend.
Ça dépend, je suis d'accord.
Il y a très bonnes choses sur TikTok.
Tu sais qui on va appeler à la rescousse? 4chan, ils vont faire des choses bien chez 4chan. Ah bah alors, oui. Vous connaissez ce...
Bah bien sûr.
Bah, au moins, t'es pas surpris, là, oui.
C'est ça. Le forum des jeunes d'Internet qui sont toujours sur tous les mauvais coups, genre, si on peut, on doit. C'est le motto de 4chan. Et bah, ils ont lancé une campagne de distribution massive d'images super racistes qui ont été générées à la chaîne par des IA. En l'occurrence, c'est DALL-E 3 sur Bing. Ils ont dit, vous mettez telle phrase et vous diffusez ça partout. C'est évidemment pour le LOL chez 4chan, mais
c'est pas rigolo, quoi.
Voilà, et c'est l'une des... J'en parle parce que, à mon sens, c'est la première fois qu'on a un exemple de cette utilisation qui avait été prédite, évidemment, depuis le lancement de ces trucs-là. Évidemment, c'est 4chan qui s'est lancé là-dessus. Il poste sur Telegram, Instagram, X, etc. Donc, voilà. Sacré 4chan.
Tu m'as envoyé sur 4chan, ce qui est vraiment la dernière des choses à faire.
Je suis déjà
voulu aller voir la partie.
J'ai voulu aller voir la partie dédiée aux news. Et c'est amusant, tu cliques dessus et la 4chan, quand même, en disant, vous êtes sûr?
Est-ce que vous êtes sûr d'aller voir les news avec des gros R guillemets? Mais 4chan, c'est vraiment la raclure de bidets d'Internet, quoi. C'est
le fond de la cuve.
Écoute, au moins, c'est pas H. Autant j'adore
Reddit, mais 4chan, c'est pas H.
Reddit, c'est bien. Reddit, c'est bien.
Non, moi, j'adore Reddit. J'adore Reddit, franchement. Mais
4chan, c'est un truc purement américain sur le gouverneur tyran communiste du Nouveau-Mexique étant l'interdiction anticonstitutionnelle des armes. Ok, d'accord, je crois que ça y est.
Franchement, c'est vraiment, si vous êtes en dépression, il ne faut pas y aller, quoi. C'est vraiment, enfin, je pense que c'est juste, tu y vas une fois et tu tombes en dépression directement.
Quelque chose de plus neutre, une info plus neutre. Vous connaissez Shein et Temu? C'est des applications d'e-commerce, en fait, chinoises, qui connaissent un succès monumental et qui fonctionnent tellement bien que, selon les données du gouvernement chinois, l'export dans l'e-commerce a connu une croissance de 20% d'une année sur l'autre, sur la première moitié de 2023. Les exportations ont chuté, mais dans l'e-commerce spécifiquement, ça a cru. Et on attribue cette croissance spécifiquement à Shine et Temu. Pourquoi ? Parce que les fabricants chinois peuvent avoir un outil tout en un pour se connecter directement aux clients du monde entier. C'est un petit peu comme Amazon, mais en plus simple, en plus tout en un, en plus clé en main. Et ça a permis aux fabricants, je mettrai là aussi dans la newsletter le lien vers ce sujet, il y a des outils en fait, qui font qu'ils n'ont à se soucier de rien et ils peuvent facilement vendre au monde entier. Pas très différent d'Amazon, mais spécifiquement pour la Chine. Donc,
quand même différent. Alors, c'est intéressant l'émergence de Temu. Temu, si vous ne connaissez pas, c'est le nouveau concurrent d'AliExpress. Moi, je suis un vétéran d'AliExpress parce que c'est passionnant, AliExpress. Tu vois arriver des trucs quand tu ne savais pas que ça existe. Et en plus, ça coûte 1 euro et tu ne payes pas les frais de port. Donc, il y avait un mystère AliExpress pour longtemps. Mais on disait, mais ça ne tient pas debout. Comment est-ce que ce truc tient debout sur les frais de port? Jusqu'à ce que des Américains fassent une enquête. Et en fait, c'était lié à des accords internationaux sur les tarifs postaux. Je vous la fais rapide. Qui faisait qu'en fait, ils ne te faisaient pas payer. Mais tu avais des e-commerçants locaux qui attendaient. Ils voulaient dire que le mec qui est de l'autre côté de la rue, il me commande un colis, ça me coûte 5 balles. Alors que s'il commande sur AliExpress à Shenzhen, ça lui coûte zéro. Bref, bon, c'est revenu en arrière. Ça y est, maintenant, il y a des frais de port. Il y a surtout la captation de la TVA sur ces plateformes-là. Mais alors, Temu arrive avec... Enfin, tu vois, c'est comme si quelqu'un arrivait en disant « Écoutez, je vais être le nouvel Amazon. Ouais, vous êtes sûr, il faut prendre de l'élan quand même. » Et ben, ils ont de l'élan, ils ont un fric quasiment infini, Temu. Et donc, en gros, aujourd'hui, vous avez tout sur Temu et l'objet de promo où tout est à 2 euros. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais sachez bien que c'est un truc, c'est des promos qui sont sponsorisés par des capitaux risqueurs. Donc, c'est un peu comme Uber au début quand c'était pas cher. Donc, c'est pas évident que ça dure très longtemps. Mais c'est vrai que c'est passionnant pour découvrir des produits. Même à titre pro, j'ai découvert des produits. Alors, parfois, j'ai remonté vers des plateformes plus professionnelles après. Mais c'est un moteur de découverte absolument incroyable. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as tout le commerce mondial. Enfin, surtout des trucs produits en Chine, qui est là-bas. C'est ébouriffant.
Et Temu, surtout, ils ont une stratégie... pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, vas-y.
Mais, c'est que soit Chine ou Temu, c'est que là, en fait, surtout du côté de l'influence de TikTok et Instagram, ils sont en train de faire des partenariats de ouf avec des créateurs, créatrices de contenu, surtout dans le domaine de mode, lifestyle, etc. Ils sont en train de promouvoir ça, mais à d'ouf, quoi. Et c'est bon, Chine, ils sont pris un peu une grosse shitstorm cet été, là, après avoir invité des influenceuses à aller voir leurs conditions de fabrication.
Ouais,
ils les ont amenées dans
magique,
une espèce de fausse usine, là, d'usine où tout le monde est trop bien traité, payé et tout, là. Et,
oui, pour rappeler cet événement, c'était un voyage payé à des influenceuses, c'était que des influenceuses, je crois, qui étaient allées visiter un entrepôt de Shine. Elle disait c'est super sympa en Chine, c'est super
ils
sympa, les gens
payés.
Sont bien traités, ils m'ont dit qu'ils sont contents.
mais c'était abusé,
c'était drôle.
C'est tout transpirait le fake, quoi. C'est un studio avec des comédiens, je crois.
C'est l'entrepôt de Temkin.
Et d'ailleurs, TikTok essaye de faire décoller l'e-commerce sur TikTok en interne depuis des mois. Et ils vont finir par y arriver, je pense. Mais... encore une chose, Apple, il y a un rapport intéressant sur... vous vous souvenez de cette montre, le modèle d'Apple Watch qui est carbone neutre au niveau du carbone. Un rapport nouveau... jette le doute sur cette affirmation. Alors, c'est un doute moyen. Disons que ce que dit l'organisation, l'ONG, Institute of Public and Environmental Affairs, c'est que ces derniers mois, Apple a levé une obligation de transparence sur certains de ses fournisseurs, qui fait qu'on ne peut pas confirmer l'affirmation selon laquelle cette watch est neutre au niveau carbone. J'en reparle parce qu'on en avait beaucoup parlé à ce moment et l'idée est extrêmement séduisante. Alors, ils ne disent pas « Non, c'est faux, Apple a menti ». Ils disent « Il faudrait plus de transparence, surtout au niveau des fournisseurs, pour qu'on puisse confirmer la chose, parce que là, c'est un peu flou. » Donc, voilà, vous savez. Enfin, bon, toutes les histoires de Apple, d'iPhone qui émettent trop d'ondes, qui chauffent trop, machin, ça a été réparé avec des nouvelles versions des OS, donc voilà, classé. Amazon va lancer ses premiers satellites Kuiper. Vous savez, c'est comme Starlink. Voilà, je cherchais le mot. Et ben, ils lancent les premiers en octobre. Enfin, ils les ont lancés. Et ils veulent une constellation de plus de 3000 satellites. Alors, ça pose les problèmes qu'on sait avec l'astronomie, etc. Potentiellement, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Mais bah, peut-être une alternative à Starlink. C'est peut-être pas une mauvaise chose à ce niveau-là. Yuga Labs, ça va très bien. Vous savez qui c'est, Yuga Labs ? Est-ce que vous savez ce que c'est que les Bored Apes ?
Ah, mon Dieu.
Ah, c'est les NFT, là.
Voilà. Et ben, ça va pas très bien chez eux. Ils font des restructurations. Ah, ben tiens, j'étais étonné, tiens. C'est surprenant. Mastodon a annoncé qu'ils avaient réparé un problème sur leur réseau qui les amenait à compter moins d'utilisateurs mensuels sur le début du mois. Et ils ont aujourd'hui 1,8 million, pas 1,8 utilisateurs mensuels, mais 1,8 million d'utilisateurs mensuels et 10 000 serveurs, ce qui est un chiffre louable pour Mastodon, qui est évidemment infinitésimal par rapport aux autres, j'allais dire au vrai, aux autres réseaux sociaux. Ouais. Je serais curieux de savoir combien en a Blue Sky, dont on parlait tout à l'heure. À mon avis, ils ne sont pas beaucoup plus hauts, peut-être même un peu plus bas. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Sur Twitter, on est plutôt dans... Alors, avant la Twitterpocalypse, on était autour de 300, 350 millions d'utilisateurs mensuels, ce genre de choses. Là, 1,8 million. Ce n'est pas encore la concurrence féroce, hein, Mastodon. Et voilà pour notre épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, en tout cas, j'ai été... c'était un délice pour moi de vous avoir dans l'émission. Avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver, Cédric ? Dis-nous tout, où es-tu sur Internet ?
Ben alors, pour le temps que ça durera, @Cédric sur X.
Pour le temps que ça durera, est-ce que tu...
Ah, on verra. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que j'y vais de moins en moins, j'interagis de moins en moins, je poste presque jamais. Enfin, c'est vrai que c'est un peu... voilà. C'est décevant. D'accord. Comme expérience utilisateur. Je suis sur Blue Sky.
Blue Sky,
aussi,
bien là, sûr, c'est... Blue Sky. Je suis
sur Blue Sky.
Tu me suis, très bien. Alors, je vais aller Mastodon, sur le principe. Mais...
J'ai pas chopé @Cédric hein, sur Blue Sky.
Ah oui, tu m'avais dit, je l'ai déjà fait.
J'ai chopé C2 Rick avec le 2 en chiffres. Mais sinon, je me suis pressé parce que je savais que je venais à ton micro. Donc, j'ai vite, ce week-end, fait un épisode des doigts dans la prise. Podcast remarquable sur la voiture électrique, la voiture autonome, le seul podcast automobile qui ne met pas de super sans-plomb dans ses cornflakes. Non, il y avait un événement Tesla, enfin pas un événement Tesla, un événement du club des propriétaires de Tesla à Beaune. Remarquable, je connaissais pas Beaune, c'est sublime Beaune, capitale des vins de Bourgogne, mais voilà où il y avait 400 Tesla déviés et des machins, et puis surtout plein de trucs à voir. Enfin, c'était vachement intéressant. Et donc, on a enregistré un épisode là-bas que je vous invite à aller écouter.
Magnifique, les doigts dans la prise. C'est en podcast. Pauline, où es-tu sur Internet ?
Ben moi, vous pouvez me retrouver encore sur X. J'ai du mal à m'y faire. Mais donc, Pauline Ferrari.
Sur Twitter,
on
t'en voudra. Hein.
Sur Twitter, Pauline Ferrari avec le. Pauline avec un zéro à la place du AU. Pauline Ferrari et également sur Instagram, j'ai un Instagram professionnel maintenant qui est destiné à accueillir justement mon travail et vous pourrez me retrouver également en librairie début novembre que je sors un livre le 2 novembre prochain qui s'appelle Former et S à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux aux éditions Lattès et qui sort le 2 novembre prochain. Donc voilà, restez connectés sur les internets, ça va arriver rapidement.
Félicitations.
Merci.
C'est ton premier livre ?
Oui, c'est le tout premier.
Super.
C'est, j'espère, pas le dernier, mais le premier pour l'instant.
Pauline Ferrari avec un zéro à la place du AU. C'est sur X et sur Instagram. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook. J'ai tellement l'habitude de dire Twitter, Facebook, Instagram. Maintenant, je dois dire quoi? Alors, sur X, Blue Sky, Mastodon, sur Instagram aussi, TikTok. Alors, je suis note, Patrick, encore
sur
une fois.
TikTok.
Alors, je teste des trucs, hein. Donc, vous attendez pas à une qualité folle, encore. Ça viendra peut-être.
J'ai pas chopé
note Patrick, malheureusement. Sur TikTok, c'est le seul réseau du monde. Mais du coup, je suis note Patrick, très logiquement. Donc, vous pouvez me retrouver là-bas sur TikTok. Et puis, la newsletter, évidemment, avec tous les liens dont on parlait dans cet épisode, qui est disponible, enfin, qui est envoyé tous les vendredis. Abonnez-vous maintenant pour les avoir vendredi. C'est sur notepatrick.com ou dans les notes de l'émission, vous avez le lien pour vous abonner à la newsletter. Et puis, bah, le Patreon, vous savez, on en a parlé dans l'émission. Si vous voulez soutenir un travail journalistique dont j'espère que... Enfin, journalistique, non, je ne me qualifie pas moi-même de journaliste, je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, un travail de veille tech et qui est, j'espère, de qualité, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.